Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du jeudi 27 février 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiètent de la création d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires au Soudan. Le Caire rejette la proposition du chef de l'opposition israélienne confiant à l'Égypte l'administration de Gaza pour 8 ans. Le président Donald Trump a réuni hier, mercredi, toute son équipe gouvernementale, le premier cabinet meeting de son second mandat. Le chef de la diplomatie russe a annoncé mercredi la tenue jeudi à Istanbul d'une deuxième réunion entre diplomates russes et américains. Et dans notre partie magazine, nous irons en République démocratique du Congo où les violences dans l'Est ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir, trouvant refuge au Burundi.
Il y a des gens qui étaient déjà dans des camps de déplacés à l'intérieur du Congo et ces camps ont été attaqués et démantelés.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Niger, 16 villageois ont été tués entre le 22 et le 25 février dans 2 attaques de bandits armés ayant visé des villages dans la région de Dosso, dans le sud ouest du pays, près du Nigeria et du Bénin, a annoncé mercredi la radio d'État. Dans la nuit du 22 au 23 février à Makani, les assaillants, après avoir rassemblé les villageois, ont ouvert le feu, tuant sur place 14 personnes et blessant 3 autres, précise un reportage de la radio nigérienne, ajoutant qu'une 50aine de maisons, boutiques et greniers ont également été incendiées. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont inquiétés mercredi de la création d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires au Soudan, tandis que le Kenya, mis en cause par le gouvernement soudanais, a démenti avoir reconnu toute entité. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Les tentatives des FSR et d'acteurs alliés d'établir un gouvernement dans les territoires contrôlés par les FSR au Soudan n'aident pas la cause de la paix et de la sécurité et risquent une partition de fait du pays, a déclaré le représentant américain John Kelly lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan sera nécessaire pour une fin durable de cette guerre, a renchéri l'ambassadrice britannique Barbara Woodward, disant partager la profonde inquiétude du secrétaire général de l'ONU sur ce développement. Une position également exprimée par d'autres membres du Conseil, comme la France ou la Chine, dont l'ambassadeur Foucon a mis en avant le risque de fragmentation. L'ambassadeur soudanais à l'ONU, Idriss Al-Harith Mohamed, a dénoncé une tentative destinée à démanteler le Soudan, s'en prenant une nouvelle fois au Kenya, qu'il a accusé d'avoir reconnu le gouvernement parallèle, une violation sans précédent de la charte de l'ONU selon lui. Ni le président William Ruto, ni le gouvernement du Kenya n'ont reconnu une quelconque entité indépendante au Soudan ou ailleurs, a répondu son homologue kenyan.
La justice internationale n'a pas permis d'endiguer 3 décennies d'atrocités dans l'est de la République démocratique du Congo, a admis mercredi à Kinshasa le procureur de la Cour pénale internationale qui soutient l'idée avancée par Kinshasa d'un tribunal spécial pour ces crimes. Dans un entretien à l'AFP en marge d'une visite à Kinshasa, le procureur Karim Khan s'est dit extrêmement inquiet de l'escalade des violences dans l'est où la CPI enquête sur les crimes commis depuis janvier 2022 et se focalise actuellement sur les rapports horribles qui arrivent de l'Est. L'opposition en Guinée-Bissau a appelé à la paralysie totale du pays à partir de jeudi, jour où, selon elle, le mandat du président Oumaro Sissoko Embalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. L'opposition menée par l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira considère que le mandat de M. Embalo arrive à échéance jeudi. Un important dispositif de maintien de l'ordre a été déployé mercredi soir sur les points stratégiques de la capitale, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Conseil de la Nation, équivalent du Sénat en Algérie, a annoncé mercredi la suspension de ses relations avec le Sénat français pour protester contre la visite lundi et mardi de son président Gérard Larcher au Sahara occidental, territoire où l'Algérie soutient les indépendantistes du Polisario contre le Maroc. Selon le Conseil de la Nation, il s'agit d'un acte inacceptable qui méprise la légitimité internationale et s'oppose aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Caire rejette la proposition du chef de l'opposition israélienne confiant à l'Égypte l'administration de Gaza pour 8 ans en échange d'un allègement massif de sa dette. Le point avec Eddy Sango.
L'Égypte qualifie l'idée d'inacceptable et contraire à la position égyptienne et arabe sur la cause palestinienne. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalaf, cité hier par l'agence de presse officielle égyptienne MENA. La proposition a été faite mardi par le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid. Mais pour M. Khalaf, toute proposition contournant les principes du retrait israélien des territoires palestiniens et de la création d'un État palestinien indépendant ne serait qu'une demi-solution risquant de prolonger les conflits plutôt que de les résoudre. M. Khalifa soulignait les liens indissociables entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, Jérusalem-Est incluse, occupée et annexée en 1967 en tant que parties intégrantes des territoires palestiniens qui doivent être sous pleine souveraineté et gestion palestinienne. L'Égypte a rejeté à plusieurs reprises les projets de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, qualifiant une telle option de ligne rouge. Elle a pris la tête des efforts diplomatiques lancés ces mois-ci contre la proposition du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza et du déplacement de sa population vers l'Égypte et la Jordanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a réuni hier mercredi toute son équipe gouvernementale, le premier cabinet meeting de son second mandat. Ce rendez-vous est rare est une occasion pour le président américain d'exposer sa stratégie et vanter ses accomplissements. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, qui a la mission de réformer l'appareil fédéral, a été invité à parler en premier. Le point avec Eric Manilakis.
Devant les journalistes présents et le gouvernement au complet, Elon Musk a appelé les ministres à agir rapidement pour réduire le déficit du budget fédéral des États-Unis. Les ministres sont enchantés de l'action d'Elon Musk, a assuré Donald Trump. Nous ferons des erreurs, nous ne serons pas parfaits, a dit Elon Musk, en promettant toutefois de les réparer rapidement. La Maison-Blanche a demandé mercredi à l'ensemble des agences fédérales américaines de se préparer à des licenciements massifs de fonctionnaires en éliminant les postes qui ne sont pas nécessaires. Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir que 65% des fonctionnaires fédéraux travaillant pour l'Agence de protection de l'environnement seraient congédiés. Le directeur du bureau de direction et du budget, dans une circulaire adressée aux agences fédérales, demande de créer un guichet de départ, de ne pas recruter pour remplacer les départs programmés et de se séparer des employés considérés comme insuffisamment performants.
Le chef de la diplomatie russe a annoncé mercredi la tenue jeudi à Istanbul d'une deuxième réunion entre diplomates russes et américains après de premières discussions le 18 février en Arabie Saoudite sur fond de rapprochement entre Moscou et Washington. Les précisions avec Dili Diko.
Nos diplomates et experts de haut niveau se réuniront et aborderont les problèmes systémiques qui se sont accumulés, a déclaré Sergei Lavrov lors d'une conférence de presse à Doha. Une source au sein du ministère turc des Affaires étrangères a confirmé qu'une réunion technique est prévue entre des délégations russes et américaines. La Turquie est prête à fournir toutes sortes de soutien aux efforts de paix, y compris en accueillant des pourparlers, a ajouté la source. Les premiers pourparlers russo-américains depuis février 2022 qui se sont tenus le 18 février à Riyad en Arabie Saoudite ont eu lieu quelques jours après un appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump, brisant la politique d'isolement menée par Washington et les Occidentaux depuis 3 ans. Dans la foulée, Russes et Américains ont dit vouloir une remise à plat de leurs relations bilatérales, faisant craindre à Kiev et ses alliés européens d'être mis de côté dans le règlement du conflit en Ukraine. Les Européens, Emmanuel Macron et Keir Starmer en tête, tentent de convaincre Donald Trump pour que les Américains apportent un soutien logistique à d'éventuelles troupes européennes qui seraient déployées en Ukraine pour faire respecter un futur cessez-le-feu. Monsieur Starmer doit rencontrer le président Donald Trump ce jeudi à la Maison-Blanche.
Le Hamas a restitué dans la nuit de mercredi à jeudi 4 corps d'otages israéliens morts à Gaza, une restitution suivie par le transfert de prisonniers palestiniens vers la Cisjordanie occupée. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
La tonne de cacao a clôturé à 8 934 dollars sur l'Intercontinental Exchange de New York la semaine dernière, marquant une troisième séance consécutive de baisse. D'après les observateurs, cette plongée des prix du cacao est principalement liée aux récents mouvements sur les marchés. Plusieurs sources du marché interrogées par Reuters ont pronostiqué une baisse de 30% des cours mondiaux d'ici la fin 2025 avec le ralentissement de la demande. Le ministre guinéen de l'économie, Mourad Hassouma, a annoncé que tout nouveau soutien financier du Fonds monétaire international dépendra de différentes mesures comme la fixation d'un prix de référence pour la bauxite ou le recouvrement des arriérés fiscaux. Une mission du FMI est présente dans le pays depuis le 18 février pour étudier les conditions d'un programme de financement. Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a demandé mercredi à l'ensemble des agences fédérales américaines de se préparer à des licenciements massifs de fonctionnaires en éliminant les postes qui ne sont pas nécessaires. Cette circulaire prévoit néanmoins des exceptions en faveur des forces de l'ordre, des agences chargées de la politique migratoire, les services postaux ainsi que les forces armées.
Classe maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Nous parlons du noble art ce matin et direction le Ghana pour parler d'une histoire fascinante, celle d'une jeune pugiliste qui inspire.
Oui, Abigail Kwaterka Carter a placé son pays, le Ghana, sur la carte de la boxe féminine en devenant championne du monde. Pour y arriver, elle a dû franchir plusieurs obstacles, dont la résistance de ses parents. Les journées d'Abigail Kwaterka Carter débutent à 5h du matin. Elle commence par courir dans les rues de son quartier natal, Jamestown, l'un des plus anciens d'Accra, quartier ouvrier axé sur l'industrie de la pêche. La plupart des habitants de Jamestown sont des gars, surtout connus pour leur passion de la boxe. Abigail n'a pas échappé à cette passion pour le noble art. Mais la jeune pugiliste a dû faire face à de nombreux stéréotypes. À part son frère, lui-même boxeur, elle n'a pas reçu d'encouragement de sa famille.
Mes tantes et mes frères et sœurs n'ont pas apprécié que je commence à boxer. Ils venaient ici pour supplier mon entraîneur de ne pas me laisser devenir boxeuse. Mais il leur a dit que j'étais une bonne boxeuse et que je réussirais.
L'année dernière, la jeune boxeuse de 28 ans est devenue la première femme ghanéenne championne du monde de la discipline. Elle a battu la Britannique Sangeeta Berdi à la Bukom Boxing Arena de Jamestown pour le titre de championne du monde des poids super de la WIBF.
Je suis devenue la première boxeuse à voyager en dehors du Ghana sur le billet des Black Bombers, l'équipe nationale de boxe, tout comme je suis devenue la première femme à remporter un titre mondial pour le Ghana.
Abigail n'est peut-être pas la première boxeuse ghanéenne, mais elle est la plus titrée du pays. Son entraîneur, Ebenezer Dikoch-Killer Adjei, l'encadre avec fierté lors de ses séances d'entraînement au Black Panthers Gym de Jamestown.
Son titre est une grande affaire pour elle, mais aussi pour le gymnase, la communauté, la nation ghanéenne, l'Afrique et le monde entier. Il n'est pas facile de gagner un tel titre et aucune femme du Ghana n'a jamais remporté un tel titre.
La famille de Korte soutient désormais ses rêves, surtout depuis sa victoire. Elle est aussi une source d'inspiration pour d'autres femmes, comme Perpetual Akaija.
Au début, ils ne m'ont pas soutenue parce que j'étais la seule femme de la famille à aimer la boxe. Chaque fois que j'essayais d'aller à l'entraînement, ils me décourageaient. Ils me disaient « Va travailler, tu es une femme, tu ne peux pas boxer ».
Sarah Lotus Azare, coach de boxe et manager de projet pour le tournoi Girls Box, explique que le titre mondial de Carter signifie beaucoup pour les boxeuses du Ghana, où les ressources sont limitées.
Même pour les boxeurs masculins, lorsqu'ils se battent contre des non-africains, il est très difficile pour eux de gagner car ils ont beaucoup plus d'installations et d'équipements que nous. C'est donc une histoire très inspirante et nous sommes vraiment heureux pour elle.
Il faut de la sueur et du dévouement pour atteindre le sommet dans le monde de la boxe. Mais le parcours de Carté reste une source d'espoir pour d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans ce sport.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les violences en République démocratique du Congo ont poussé quelques 46 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, à trouver refuge au Burundi en deux semaines, a indiqué vendredi l'ONU, qui s'attendait initialement à 58 000 arrivées en trois mois. Eddie Sango a joint à Bujumbura la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Henault.
À ce jour, nous parlons de presque 46 000 personnes qui sont arrivées avec les récents combats, plus particulièrement depuis la chute de Goma. Ensuite de Bukavu.
Et dans quel état viennent-ils? Y a-t-il des blessés parmi eux, des malades, de femmes enceintes et autres?
Malheureusement, la population qui arrive actuellement est dans un mauvais état de santé, je dirais, parce que parmi eux, surtout à Rugombo, où nous avons plus de 40 000 personnes aux côtés de Rugombo, c'est des gens qui ont marché pendant très longtemps. Il y a des gens qui étaient déjà dans des camps de déplacés à l'intérieur du Congo, et ces camps ont été attaqués et démantelés. Et donc, c'est des gens qui ont quitté déjà les camps de déplacés internes et pour traverser jusqu'au Burundi. Donc, ils ont été plusieurs fois déplacés à différents endroits avant d'arriver finalement au Burundi. Et donc, ils sont arrivés dans un état de fatigue complète, mais il y a également des personnes qui ont perdu des membres de famille ou qui ont perdu même des enfants pendant leur fuite. Nous avons même des dames, par exemple, ce matin, nous étions au niveau du stade de Rugombo, qui a été mis à disposition par le gouvernement du Burundi. Il y a une dame là-bas qui a perdu ses deux enfants au moment de la traversée de la rivière de Rusizi. Donc, il y a des gens qui sont vraiment traumatisés de tout ce qu'ils ont vécu, d'abord au Congo, mais également même pendant la fuite, ils ont subi beaucoup de violences. Et donc, les médecins sur place, nous sommes en train de travailler avec MSF qui essaie de mettre en place une réponse médicale pour ces personnes qui sont traumatisées et qui ont été violentées.
Nous avons appris qu'il y a beaucoup de policiers et même des militaires qui fuient. Est-ce que vous le recevez? Je sais qu'il y a des restrictions, mais est-ce qu'ils sont au nombre de réfugiés qui arrivent au Burundi? Et qu'est-ce que vous en faites?
Le gouvernement du Burundi les a reçus. Ils ont été séparés immédiatement. D'abord désarmés à la frontière et envoyés vers un camp militaire. Donc, ils ne sont pas dans la population. Je dirais, c'est la première fois en plusieurs années que le Burundi n'a pas reçu autant de réfugiés en une fois. Dans le pays, actuellement, il y a des réfugiés congolais qui sont dans différents camps à l'est du pays. Et la population totale de ces anciens réfugiés, c'est autour de 90 000 réfugiés. Et ça, c'est depuis, pour certains, plus de 20 ans. Et même les autres années, on recevait au maximum, c'était autour de 3 à 4 000 personnes par an.
Brigitte Henault, représentante du HCR au Burundi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Les étudiants en architecture et urbanisme à Kongsamba, au Cameroun, estiment que l'architecture est la première étape consistant à identifier les problèmes sociaux. Grâce à ces études en architecture et urbanisme, ils nourrissent l'espoir d'une Afrique, particulièrement d'un Cameroun moderne, où les infrastructures reflètent l'identité culturelle et où les jeunes jouent un rôle central dans le développement. Malgré les obstacles, ils demeurent optimistes quant à la transformation de leur pays. Nani Talani nous en dit plus.
Les ambitions que j'ai...
À l'Institut des Beaux-Arts de Kongsamba, Ivan Fosso, étudiant en architecture, rêve d'un Cameroun où la majorité des infrastructures seront modernes, développées par des urbanistes et des architectes locaux et qui reflètent aussi sa culture et son identité. L'architecture, souvent réduite à l'art de bâtir des structures, est en réalité bien plus que cela. Elle incarne profondément la culture, les croyances, les aspirations et l'histoire d'une communauté. Ivan Fosso.
Et si au final, dans un futur, à l'émergence 2037 par exemple, on arrive à avoir 80%, parfois 10% des bâtiments nouvellement construits au Cameroun qui ont été construits par des architectes, on peut être sûr, ou des villes qui ont été pensées par des urbanistes et des architectes, on pourra arriver à avoir un Cameroun développé. Un Cameroun développé, avec des infrastructures développées, modernes, qui reflète aussi notre culture et notre identité.
Cependant, Ivan Fosso regrette le fait que les jeunes au Cameroun sont souvent désespérés et manquent d'engagement. Il pense que si les jeunes se mobilisaient et s'organisaient en groupe, leur voix pourrait vraiment compter dans le changement.
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes au Cameroun sont dans un état de désespoir, il faut le dire, généralement. Ils ne sont pas engagés, ils n'ont pas espoir d'un Cameroun meilleur. Et je pense que si les jeunes se mobilisaient et qu'on avait des groupuscules, des groupements de jeunes, peut-être par région, peut-être des organisations, des organismes jeunes qui œuvrent vraiment, je pense que les voix pourraient compter.
Le Cameroun est en proie à un conflit séparatiste qui a déjà tué et déplacé des milliers de personnes. Ivan Fosso rêve d'un pays où les communautés vivraient dans un confort digne et dans un esprit de vivre ensemble.
Et mes espoirs pour moi-même, c'est que, déjà pour mon pays, c'est que le taux de chômage baisse, que la qualité de vie augmente, qu'elle soit beaucoup meilleure. Qu'il y ait du bien-être dans les communautés, que les populations aient un minimum de confort.
Ivan Fosso fait partie des futurs professionnels africains qui croient fermement que l'architecture et l'urbanisme peuvent jouer un rôle clé dans le renforcement de l'identité nationale et l'amélioration de la qualité de vie des populations, ouvrant ainsi la voie à un Cameroun, mais également à une Afrique plus prospère et unifiée.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Malgré l'incertitude croissante liée à l'avenir du soutien des États-Unis aux questions existentielles qui s'opposent de plus en plus et au progrès continu de la Russie sur le terrain, les sondages montrent que les Ukrainiens restent généralement optimistes quant à leur avenir. Lesia Bakalet nous parle de Kiev. Récit d'Ilidiko.
Cette partie de la place de l'indépendance, au centre de Kiev, était un parterre de fleurs jusqu'en 2022. Au début de l'invasion, les gens ont commencé à y apporter des drapeaux ukrainiens en mémoire des soldats tombés au combat. En 3 ans, le nombre de drapeaux a augmenté par centaines. Paulina, 16 ans, est ici avec une amie.
Nous avons apporté un drapeau en mémoire de notre oncle.
Il y a toujours quelqu'un au mémorial. Après 3 ans d'invasion russe, les sentiments sont partagés.
Ne me demandez pas ce que je ressens en cette 3e année de guerre. J'ai perdu mon mari. Il était dans l'armée.
Je ressens du désespoir dans mon corps, de la colère dans ma tête et je veux retrouver mon mari. Il a disparu du front il y a 3 mois.
Je ne pense pas à la politique. Je veux juste que tout le monde reste en vie pour que cette guerre soit terminée, pour que nous puissions vivre dans la paix.
Il s'agissait de Daria, Lyudmila et Lina, des habitantes de Kiev. L'Institut international de sociologie de Kiev, une organisation non gouvernementale, travaille en Ukraine depuis plus de 30 ans. Son enquête à la fin de l'année 2024 suggère que la plupart des Ukrainiens restent optimistes. Anton Khrushchevsky est directeur exécutif de l'Institut international de sociologie de Kiev.
Plus de 80% des personnes interrogées pensent que l'Ukraine est capable de remporter la guerre si les partenaires occidentaux la soutiennent comme il se doit.
Une étude similaire menée l'an dernier par l'International Republican Institute révèle que 88% des citoyens ukrainiens interrogés pensent que la victoire est possible. Mais l'enthousiasme n'est pas aussi grand qu'au début de l'invasion en 2022. Il fallait s'y attendre, explique Artyom Zakharchenko, directeur de l'organisation à but non lucratif Communication Analysis Team, qui a suivi les attitudes des Ukrainiens sur les réseaux sociaux depuis les premiers jours de la guerre.
Le plus difficile aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas quoi faire pour améliorer les choses. En ce moment, on se concentre beaucoup sur Trump et sur ce qu'il va faire maintenant.
Les sociologues constatent également que la déception, la fatigue et la colère sont élevées chez les Ukrainiens, des sentiments qui poussent certains à s'opposer aux négociations. Anton Khrouchetsky, de l'Institut international de sociologie de Kiev.
Il y a de la fatigue, de l'épuisement, mais il y a aussi une compréhension du fait que la Russie est un ennemi existentiel et cela crée très peu de place pour le compromis.
Dans le même temps, les sondages indiquent que la confiance de la population dans les forces armées ukrainiennes est constamment élevée à 90%. Une enquête financée par les États-Unis et réalisée par l'Institut national de sociologie de l'Ukraine suggère que le patriotisme a uni les Ukrainiens au cours de ces années. La façon dont le pays émerge politiquement est une autre question. Sergei Dembitsky est le directeur adjoint de l'Institut.
Les sacrifices consentis sont un indicateur de maturité, de résilience et de dévouement. Mais lorsque la guerre sera terminée et que nous reviendrons à notre processus politique, nous verrons alors si la société a évolué ou non.
Pendant ce temps, près du mémorial, un musicien de rue chante une chanson populaire d'un groupe de rock ukrainien. La chanson dit que tout ira bien pour tout le monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le pape François, 88 ans, s'est bien reposé toute la nuit, a indiqué mardi matin le Vatican au 12e jour de son hospitalisation, après avoir fait état la veille d'une légère amélioration. Pour savoir comment le droit canonique encadre la gestion de ce type de situation, Eric Manilakiza a joint à Paris le père Grégoire Prichotko, docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud Saclay.
Les décisions importantes pour l'Église vont avoir lieu. Ça veut dire que le serein pontife, il continue sa mission, même dans ces conditions difficiles. Il pense à l'Église, il pense à ses fidèles et il pense sûrement à l'année jubilaire.
En tant que responsable spirituel, comment percevez-vous les spéculations concernant une éventuelle démission du pape François?
Il y a plusieurs questions qui se posent, mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc, on va attendre le consistoire que le pape a annoncé pour savoir quelle perspective attend l'Église. Je me souviens très bien quand la santé du pape de Saint-Jean-Paul II était déjà très dégradée et éventuellement, il y a eu les mêmes spéculations concernant sa renonciation.
Le pape a donc autorisé la canonisation de deux laïcs du Venezuela et d'Italie et convoqué une consistoire assemblée de cardinaux. La date n'a pas été précisée. Sur quoi se penchent les cardinaux dans des moments comme celui-ci?
Les cardinaux qui sont les collaborateurs les plus proches du pape mobilisent leurs forces pour pouvoir servir à l'unité de l'Église et aider le souverain pontife à continuer sa mission. Et bien souvent, c'est le consistoire justement qui joue le rôle décisif pour apporter son éclairage au souverain pontife quand le pape signe notamment les décrets de canonisation des saints pour l'Église catholique.
Est-ce que c'est aussi pour définir, par exemple, les règles concernant l'exercice des fonctions du Saint-Siège dans un tel contexte de santé fragile?
Ces règles sont déjà définies par le droit canonique. Dans le cas où le pape renonce, l'Église va vivre une période de siège vacant. Donc, elle va être gouverné par le collège des cardinaux, administré par le cardinal Kamerlin, qui va diriger les affaires courantes avec l'aide de trois cardinaux assistants, jusqu'à le nouveau conclave où sera élu le prochain souverain pontife.
Quel rôle joue l'Église dans la gestion de la santé du pape et comment les autres instances de l'Église interviennent-elles pour soutenir ce processus en dehors du Vatican?
En dehors du Vatican, dans la gestion de l'Église, rien ne change, sauf peut-être quand il y a les nominations épiscopales à prévoir, mais aucun évêque ne pourra être nommé avant que le nouveau pape arrive. C'est-à-dire que l'Église continue sa vie.
Le père Grégoire Pritchotko, docteur en droit canonique de l'Université Paris-Sud, Saclay. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Firmin Koyaouida. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.